13e et dernière émission de cette série consacrée de 10-10 consacrée au mois de l'économie sociale et solidaire, les associations, les coopératives, les mutuelles. Et c'est le temps, sinon d'un bilan, du moins de revenir sur cette variété d'organisations, sur ce qui s'y passe et peut-être d'avoir un point de vue un peu plus politique aujourd'hui sur qu'est-ce qui est en jeu dans le plan, dans les finances publiques de l'an prochain, puisqu'il est question de beaucoup de coupes, et beaucoup de coupes en particulier pour ces secteurs, sur le secteur de l'économie sociale et solidaire. Avec nous, trois invités. Je commence par Caroline Dufoy, qui aura la tâche difficile d'être une élue, ne venant pas parler d'un bilan, mais venant parler des rapports d'une collectivité avec le monde de l'ESS, avec François Dibault, qui représente le mouvement associatif, et avec Jean Huette, qui représente le mouvement des coopératives. Bonjour à tous les trois, et tout de suite une première question. Vous avez vécu ce mois de l'ESS dans vos organisations respectives. Vous y avez fait quoi rapidement? Est-ce que vous avez un premier bilan à en faire avant qu'on ne parle peut-être davantage du fond? Je ne sais pas, François, Jean, qui commence? Pique-nique douille, là.
Non, je veux bien commencer. C'est vrai que le mois de l'ESS depuis 2005 vraiment permet de mettre en lumière plus fortement cette autre économie, cette manière d'entreprendre un peu différemment, hein, et de faire les choses au service des territoires et des personnes qui y vivent. Et donc pour nous, ce mois, c'est l'occasion de répondre souvent à beaucoup de sollicitations, hein, qui sont assez nombreuses sur les territoires, pour présenter aussi ces formes que sont les SCOP, coopératives de salariés, ou les SIC, coopératives d'intérêt collectif, et de montrer que dans le panel aussi de l'économie sociale, avec les mutuelles, avec les associations, il y a aussi cette manière, hein, de faire et d'entreprendre. Donc pour nous, ça a été l'occasion de répondre à pas mal d'événements, et puis aussi, lors d'événements plus entrepreneuriaux classiques, de donner aussi voix au chapitre à cette manière d'entreprendre.
Et vous, François?
Alors, pour mémoire, effectivement, le 11 octobre, il y avait donc le mouvement Ça ne tient plus, qui a généré 350 actions sur tout le territoire national. Et comme le mouvement associatif est une vieille dame qui prend le temps, nous avons profité du mois de l'ESS pour rassembler un petit peu toutes les forces vives et définir un peu une feuille de route sur les suites à donner à ce mouvement du 11 octobre que je vous propose de vous livrer en avant-première matin pour le scoop national.
On rappelle juste qu'effectivement, on s'était rencontrés. On a fait 3 heures d'émission le 11 octobre sur cette antenne pour faire le tour d'un certain nombre d'assos, de coopératives et de mutuelles pour voir un peu ce qui était en jeu. Alors, donc François, un mois après, un peu plus d'un mois après maintenant, donc une stratégie se dessine.
Alors une stratégie, je vais vous livrer la note. Je ne vais pas lire la note, je vais essayer de rendre la chose un peu vivante, mais ce n'est pas facile. En fait, le contexte, pour nous maintenant, mouvement associatif national, et on aura une déclinaison en Occitanie qui va reprendre l'ensemble des points que je vais vous présenter. C'est vraiment un changement d'échelle dans l'expression associative. On parle de cohésion sociale, d'éducation populaire, émancipation. En fait, l'idée, c'est de se dire que le mouvement associatif a rendu visible un corps social organisé qui doit pouvoir continuer d'agir, en fait, comme un mouvement social pour la reconnaissance du fait associatif, comme une infrastructure démocratique. En fait, l'idée pour nous, c'est de donner forme, durée, cohérence à ce mouvement. C'est pas simplement dire, il y a eu un moment de ras-le-bol, on s'est rassemblés, on l'a dit. Maintenant, en fait, effectivement, on se positionne en assumant la fonction de mouvement social organisé. Et ça, c'est une première pour le mouvement associatif, qui était un peu en retrait et derrière ses membres. Là, il y a vraiment l'idée politique d'afficher l'idée que...
Mouvement social organisé, ça veut dire un peu comme un syndicat d'une certaine manière.
Une fonction de mouvement social organisé, quelques points. Formuler une vision politique du rôle du fait associatif, on pourra en parler avec une élue éventuellement. Relier ce qui construit dans les territoires, soutenir les capacités d'agir des associations, rendre visible ce que les associations apportent à la société et peser sur les cadres institutionnels, budgétaires et législatifs. Et pour faire tout ça, nous avons décidé 9 actions structurantes que je vous propose de vous livrer en avant-première.
Là, on note tous, d'ailleurs, faudra qu'on les reprenne par écrit.
Alors, une première action qui est effectivement le déploiement d'un dispositif qui s'appelle Prévasso, qui a été expérimenté en Occitanie depuis 2 années, qui est un dispositif comme le dispositif local d'accompagnement, mais dirigé vers les associations qui ont une situation vraiment exceptionnellement difficiles et qui, au niveau financier, vont devoir aller soit au tribunal, soit à la cessation d'activité. Ce dispositif va maintenant se déployer partout en France, sous la houlette de l'expérimentation occitane. Donc, on n'est pas peu fiers de lancer des choses et de pouvoir les mettre en avant. Là, l'idée, c'est vraiment de dire, pour Prévasso, c'est l'outil pour éviter l'effondrement silencieux des associations. Et c'est vraiment présenté comme ça, l'effondrement silencieux. On a énormément de dossiers en Occitanie. Partout en France, on se rend compte que les associations touchent le fond et que là, il faut vraiment pouvoir le dire et le faire savoir.
Ça veut dire donc absence de fonds associatifs, absence de trésorerie. Donc ça veut dire
manque de trésorerie,
licenciement et peut-être même plus que ça, c'est-à-dire disparition.
Cessation d'activité. Une deuxième action qui est le droit de citer, une organisation nationale le 30 janvier 2026 à Paris qui rassemblera des élus et on espère bien l'ensemble des corps qui permettent effectivement de dire voilà ce que le mouvement associatif décide de faire en tant que mouvement social et voilà comment on va s'organiser. Donc ça c'est un temps fort, le 30 janvier à Paris. On présentera à ce moment-là le manifeste du mouvement associatif qui formulera le cadre politique commun du mouvement, ce qui est une première. La vie associative comme un mode d'organisation démocratique et non comme un simple secteur d'activité parmi d'autres. Une autre action, un travail qui est engagé avec la Fondation Jean Jaurès pour repenser les modèles de financement de la vie associative, hors logique de survie et dans une perspective de stabilité, d'intérêt général et de reconnaissance démocratique. Donc là, on est un peu sur la fonction recherche, on s'extrait du terrain et on voit effectivement avec la Fondation Jean Jaurès comment on peut imaginer les choses différemment. Une autre action dans le même sens.
C'est un choix un peu coloré.
C'est un choix un peu coloré, il y en a un autre, qui est conduit avec France Générosité, qui est d'une autre couleur, la France qui se bat, qui donnera une expression sensible à ce mouvement, en restaurant la fierté d'agir et l'envie de rejoindre. On est dans une autre approche, et effectivement, la recherche un peu colorée, et puis l'action colorée elle aussi avec France Générosité.
France Générosité, c'est un mouvement qui promeut le bénévolat, c'est ça?
Exactement,
qui...
tout à fait. Et partout dans le... Partout dans la,
dans partout le, en France et sur tous les secteurs.
France, voilà. On lance aussi un cycle national sur les relations bancaires avec la Banque de France, c'est une autre coloration, pour stabiliser les conditions matérielles d'action, particulièrement en matière de trésorerie et d'accès aux services financiers.
Et là, c'est un peu un parallèle avec les mécanismes qu'il y a aussi pour les SCOP et plus généralement pour les entreprises, où la Banque de France donne à une lecture de la santé des entreprises.
Exactement. Une autre action, un travail structuré avec les associations d'élus pour co-construire un pacte territorial pour la vie associative. Qui va être décliné localement dans le cadre des municipales de 2026.
Ok. Et vous avez, décidément, je bafouille ce matin, vous avez Refaire Commune, vous avez édité il y a très peu de temps des engagements pour soutenir le mouvement associatif. C'est un peu dans la perspective des campagnes municipales, j'imagine.
Exactement. Pacte territorial pour la vie associative. Ce sera un peu l'angle d'attaque pour les municipales. On va, pour soutenir tout ça, développer un logiciel national de remontée d'informations politiques qui sera déployé partout, permettant de documenter les positions institutionnelles, d'harmoniser l'analyse et de coordonner le plaidoyer territorial et national. Je vous avoue que ça, c'est aussi une première pour le mouvement associatif de se mobiliser sur ces axes-là et de sortir un petit peu du bois en disant maintenant, ça suffit. Effectivement, ça ne tient plus sur le terrain, mais il faut qu'on puisse dépasser un certain nombre de choses. Et enfin, la proposition de loi qui vise à renforcer, sécuriser le financement associatif, qui pour nous est l'ancrage législatif du mouvement. Quelques points particuliers là-dessus, que la subvention est le mode naturel de soutien à l'initiative citoyenne d'intérêt général, qu'elle peut couvrir jusqu'à 100% d'un projet lorsque celui-ci répond à un besoin d'intérêt général constaté, qu'elle se distingue explicitement de la commande publique et qu'elle est protégée du régime des aides d'État lorsqu'elle concerne les activités d'intérêt général. Ça valait le coup de le repréciser. Cette proposition de loi qui... redonne aux collectivités sécurité juridique et liberté politique pour soutenir les associations sans les mettre en concurrence. Et reconnaît que celles-ci ne sont pas des prestataires, mais des institutions de démocratie sociale. Ça va toujours mieux en le rappelant. Enfin, la première preuve de force, tu en parlais juste en prenant le démarrage de l'émission sur la PLF. Bon, ben, ça, tout s'aggrave effectivement. Nous, si on fait la liste effectivement des choses auxquelles nous sommes soumis pour l'instant, avec effectivement les 26% de baisse du programme Jeunesse et Vie Associative, je ne vais pas vous faire la litanie parce qu'en fait, on n'est pas là pour ça véritablement. Mais pour nous, c'est la première épreuve publique du mouvement social né le 11 octobre. On va se battre avec ce plaidoyer-là pour stopper l'effondrement immédiat, reconstruire structurellement les conditions d'action. Et enfin, je termine, ça nous fera la bascule sur ce qui peut se faire effectivement plus rapidement sur chacun des territoires. une cartographie précise de là où ça va, là où ça va pas, qui perd combien, quelles activités s'arrêtent, et une cartographie occitane où chacun pourra cliquer et vérifier effectivement que, ben en fait, si la crèche ferme, je fais comment, est-ce qu'il y a d'autres modes de garde, et que physiquement on puisse constater là où ça ne tient plus, où effectivement il n'y aura plus rien. Je ne vais pas vous faire le détail de ce que ça pourrait être, effectivement, mais on a quand même. Exactement. Nous en reparlerons lors de notre dernière initiative que j'ai à vous présenter aujourd'hui, qui sera une semaine nationale des associations organisée en 2026, où il est envisagé que chaque territoire choisisse la formule qui lui convient, montrer, ouvrir, expliquer, ou lorsqu'il le jugera juste et possible, et je vous avoue qu'en Occitanie, on est très favorable à ça, marquer une suspension symbolique temporaire d'activité. Il ne s'agira pas d'un arrêt contre, mais d'une mise en lumière. Ce qui se tient, se transmet, s'apaise, se relie, tient, parce qu'il y a des associations. Et si on arrête l'activité, ça se voit.
Vous avez mangé du loup, là, le mouvement associatif. La vieille dame, c'est pas un réveil. C'est
elle se rebiffe. Mais le contexte est contraint et il était temps, effectivement, de passer la vitesse supérieure.
Double perspective, les municipales d'un côté en 26 et les présidentielles de l'autre, on imagine. Parce que, bon, un tel programme tel que vous l'avez décrit, c'est du court, moyen et long terme. Et donc, ça suppose que le mouvement associatif sera très présent dans le débat sur les présidentielles à venir.
Oui, mais la vieille dame aime à se dévoiler petit à petit.
D'accord.
Commençons par le début.
Cette voile, je ne sais pas, je sais pas si l'image est bonne. Jean.
Oui, non, je pense que ce qui est important, c'est à la sortie du Covid, il y avait cette question d'espérance. Nous, on a beaucoup parlé de l'entreprise de demain. Je pense que là, on ne peut pas juste s'arrêter à être effectivement sur le PLF. C'est à un moment donné, il faut avoir une vision globale et de long terme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut ? Et ça vaut pour le mouvement associatif, ça vaut pour le mouvement coopératif. Nous, on s'est beaucoup positionné aussi dans ce PLF sur les questions des aides aux entreprises, de questionner ça, de conditionner à un moment donné des aides aux entreprises, comme ça peut être le cas pour les SCOP et les SIC, quand il y en a. À un moment donné, qu'il y ait des choses aussi qui soient faites sur le long terme et une visibilité, en fait, donnée. Si on sort, on est en plein mois de l'ESS, on a eu les grandes rencontres internationales de l'économie sociale à Bordeaux, fin octobre. Nous, on sort aussi de l'année internationale des coopératives. C'est à un moment donné, parce qu'on veut rendre visibles ces différentes dynamiques, et pas donc juste à notre échelle, mais à l'échelle globale. Et tout ça parce qu'à un moment donné, elle participe à changer notre mode de faire. Et dans la transition écologique et la nôtre, et qui n'est pas une question anecdotique et temporaire, qui est durable, il faut à un moment donné se projeter sur du long terme.
Corps social organisé, vous vous y reconnaissez vous aussi?
Oui, parce que nous, on a 140 ans maintenant, le mouvement des SCOP et des SIC, et on s'est constitué comme un corps social de SCOP et de SIC. Alors SIC de manière plus récente, mais pour défendre justement les intérêts des travailleurs, la place des salariés dans les coopératives, dans le fait d'entreprendre et de fait que la richesse produite serve, un, le projet, l'entreprise, l'objet social, mais aussi celles et ceux qui suent, qui transpirent pour faire que cet objet social existe.
Caroline Dufoy, l'élu face à tout ça, face à ce corps social organisé, là, bon, une collectivité locale, une commune, voire une intercommunalité, mais il y a des autres collectivités. Vous vivez avec ce monde associatif, ce monde coopératif.
Oui, on vit avec. Alors d'abord, je voulais te remercier Jean et remercier FM+ d'avoir consacré 12 émissions sur l'économie sociale et solidaire. Ça permet effectivement de faire connaître ce secteur, de le rendre plus lisible. Ça permet de montrer aussi toute sa richesse et sa variété. On va des questions de santé, d'éducation, de finances solidaires, enfin de plein de choses. Et ça permet aussi dans cette période où c'est vrai que l'ESS est toujours fragile et depuis longtemps, malheureusement, souvent pour des questions financières. Mais là, avec peut-être le projet de loi de finances qui risque d'être adopté, l'ESS va être vraiment mise à mal. Alors merci de le mettre en avant. Et plus on en parle, et plus on permet aux acteurs essentiels de l'ESS d'en parler, mieux c'est. Et je suis ravie d'être là avec Jean Huet et François Dibault. Et je rajouterai la CRES, Sarah Rousseau qui n'est pas là, mais la CRES aussi est importante parce que pour nous, sur le territoire, ce sont des acteurs clés. Alors oui, une métropole, elle ne peut pas faire sans l'ESS. L'ESS, elle est essentielle pour nous. Et d'autant plus sur le territoire de Montpellier, où on est un territoire où il y a un taux de pauvreté qui est important, d'où un taux de chômage important aussi. On est un territoire où les questions, où les mots solidarité, intérêt général, équité, innovation ont vraiment leur sens, et particulièrement dans nos politiques publiques. On est un territoire aussi où on a pris à bras-le-corps les questions de transition écologique, environnementale et sociale. Et on est un territoire aussi où on a un tissu tissu associatif, et François vient de le démontrer, très fort, avec des bénévoles qui sont là, qui ont leur temps, du temps à donner, des compétences. Et on est aussi, je finirai par ça, un territoire où on a un écosystème qui est très bien organisé de l'ESS. C'est vrai que ce sont des familles. Peut-être l'objectif plus tard, il est que peut-être ces familles travaillent mieux ensemble. Mais on est encore un territoire où, et le Covid l'a démontré, les associations, tout le monde, tous les acteurs ont été là. Alors pour une métropole, c'est fondamental parce que l'ESS, c'est une économie. C'est une économie, ce sont des structures employeuses. Alors si on est sur le territoire de la métropole, je crois que c'est plus de 2000 et quelques structures employeuses. Ce sont donc des entreprises, entre guillemets, si vous me permettez, qui contribuent financièrement au développement de notre territoire. Ce sont bien évidemment des emplois. On a plus de 27 000 emplois. On représente 11% de l'emploi privé, de l'emploi total du territoire et 15%, plus de 15% sur le territoire, des emplois privés. C'est un territoire où ces emplois sont délocalisables, ne sont pas, au contraire, excusez-moi.
Sont non délocalisables.
Ce sont des structures qui sont bien ancrées sur le territoire et elles sont fondamentales. L'ESS, ça nous permet aussi de répondre à toutes les questions d'insertion. Alors, je vais parler de l'insertion par l'activité économique et de la question des chômeurs. Ce sont des associations, des structures, d'entreprises d'insertion ou autres, qui vont permettre à des gens éloignés de l'emploi de retrouver un projet professionnel et petit à petit de se réintégrer dans la vie normale. Ça nous permet aussi sur des questions d'innovation. On a des SCOP qui travaillent sur les questions des satellites, je crois, avec la télescope. Voilà. On est sur l'innovation alimentaire, on est sur l'innovation sociale. Donc sans elle, notre territoire serait moins attractif aussi. Je crois que c'est aussi une donnée économique qui est importante dont il faut tenir compte. Et puis c'est tout le lien social, hein. C'est comme on disait tout à l'heure, c'est tous ces bénévoles qui sont là. Sans eux, les associations ne marcheraient pas. Je pense au Secours catholique, enfin toutes les associations qui sont là et qui permettent à des gens d'avoir un repas, qui permettent à des gens, quand ils ont des accidents de vie, d'être aidés pour des questions de budget, de santé ou autre. Donc oui, c'est fondamental pour nous et on ne peut pas faire sans. On sait toutes les difficultés, on essaye d'être là. Notre rôle à nous, il est vraiment... souvent en partenariat avec l'État quand même, il faut aussi le reconnaître, d'impulser, de mettre en avant, de rendre plus lisible, c'est ce que vous avez dit, d'essayer de vous aider. C'est pas évident parce que les contraintes financières, elles sont aussi pour tout le monde. Mais en tout cas, on ne peut pas faire sans. Et c'est aussi, je rajouterai, surtout parce que vous êtes là, Jean, aussi. Enfin, c'est aussi la question des modèles entrepreneuriaux que vous proposez. Je crois que ça répond aussi aux questions de sens que se posent beaucoup de jeunes à l'heure actuelle ou de gens. On propose des gouvernances démocratiques où chacun a un peu plus de place et on propose aussi des résultats financiers qui sont partagés. Donc plus d'équité pour tout le monde et peut-être un mieux-être pour tout le monde. Voilà.
Eh ben, merci Caroline pour ce plaidoyer venant d'une élue qui démontre qu'effectivement, pour les élus locaux en particulier, le monde associatif, le monde coopératif, le monde mutualiste est un partenaire incontournable, incontestable. Quelques notes de musique et on recommencera tout à l'heure par un court reportage sur un dispositif particulier. De retour dans cet ultime 10-10 consacré au mois de l'ESS, avec une rencontre qui a eu lieu il y a quelques jours, Territoire zéro chômeur de longue durée. C'est une expérimentation qui court maintenant depuis près d'une dizaine d'années, peut-être un peu moins. En tout cas, 80 territoires sont concernés. Et la directrice générale de Territoire zéro chômeur était présente à cette journée qui regroupait les expériences de l'Hérault.
Florence Bravaccini, vous êtes la directrice générale de Territoire zéro chômeur de longue durée. En ce moment d'examen du plan de finances locales, enfin le PLF, on sait que le secteur de l'ESS en général est plutôt menacé. De votre côté, comment vous voyez les choses? Vous êtes également très inquiète?
Alors, le gouvernement nous a fait une proposition donc pour le budget 26 à hauteur de 68 millions pour Territoire zéro chômeur de longue durée. C'est totalement en dessous de nos besoins puisque notre besoin est de 88 millions d'euros, donc un delta de 20 millions d'euros. Évidemment, nous avons déposé un amendement pour abonder les crédits, pour que nous puissions avoir les crédits nécessaires.
Territoire zéro chômeur de longue durée, c'est 10 ans d'expérimentation. Aujourd'hui, au niveau national, c'est combien d'emplois dans les différentes entreprises à but d'emploi?
Alors, Territoire zéro chômeur de longue durée, effectivement, existe depuis 10 ans. Et nous avons 91 entreprises à but d'emploi sur 83 territoires en France. Et ces 91 EBE emploient environ 4000 personnes.
Pour financer ces emplois, vous solvabilisez un certain nombre de choses. On parle d'activation des dépenses passives du chômage et ça suppose un engagement de l'État, mais pas que, à bonne hauteur. Et donc ces crédits-là, vous escomptez pouvoir en disposer en 2026?
Eh bien, nous avons besoin très concrètement pour poursuivre l'expérimentation, c'est-à-dire les territoires, les 83 territoires, les 91 EBE, pour poursuivre. Donc, nous avons besoin de 88 millions d'euros. Et aujourd'hui, le gouvernement nous propose 68. Donc, le compte n'y est pas. Et on est en discussion, évidemment. On a déposé un amendement de 20 millions d'euros pour pouvoir arriver aux 88 millions d'euros dont nous avons besoin pour poursuivre Territoire zéro chômeur sur les territoires.
Un petit mot sur les entreprises dans l'Hérault. Comment vous les voyez, vous, de votre point de vue plus parisien, plus national?
Écoutez, à chaque fois que je me déplace dans les territoires, je trouve qu'il y a énormément de dynamisme, de créativité, d'envie. Et je trouve que ce sont les territoires, finalement, qui parlent le mieux de Territoire zéro chômeur de longue durée.
Voilà, Territoire zéro chômeur, une des expérimentations innovantes en matière de travail, d'emploi dans les territoires. Je dirais en particulier dans les territoires ruraux où c'est sans doute peut-être plus simple de trouver des métiers non concurrentiels puisqu'il s'agit de mettre en emploi des gens qui sont éloignés de l'emploi, mais sur ne pas perturber, ne pas fragiliser le tissu artisanal et commercial local. On revient donc sur ces déclarations, j'allais dire, cet engagement, cette révolution dans le mouvement associatif français. La vieille dame se réveille, je ne sais pas comment on fera des titres. Quand on écoutait la musique, là, on parlait aussi de communication, de médias et de communication. Tout ce que vous dites, c'est les uns les autres, c'est au fond, il faut davantage révéler, mettre en évidence, rendre visible, lisible tous ces secteurs d'activité parce qu'ils sont peut-être un peu trop discrets. On y a affaire tous les jours, on ne les voit peut-être plus. Il y aura peut-être un travail à faire avec les différents médias locaux et il y aura sans doute des choses à faire en termes de coordination locale des activités, François Dibault.
Je rebondis un peu sur les propos d'une élue qui dit que les associations devraient peut-être travailler plus ensemble, effectivement, être un peu moins cloisonnées, y compris entre dispositifs, entre façons de... Je pense que c'est un des principaux arguments qui pousse effectivement sur un ensemble d'actions, notamment la semaine d'action dont je vous ai parlé. Et la cartographie, dont l'idée vraiment, en tout cas nous en Occitanie, on met un point d'honneur à travailler là-dessus, c'est effectivement comment les radios associatives peuvent-elles être des vecteurs de communication, d'échange d'informations. Retrouver des gens autour d'un plateau, ça permet de créer des liens de manière un petit peu différente, de voir le territoire de manière un peu différemment, de ne pas être seulement après dans la relation avec les élus, les collectivités, sur une demande, un échange avec des financeurs. On est dans de la politique publique. Quelle est la part qui revient effectivement au monde de l'ESS dans les politiques publiques? Jusqu'où ça va? Comment ça, la juste part? Et du coup, effectivement, en quoi les moyens, et là je te laisserai reprendre la punchline de Sarah, en quoi effectivement les médias associatifs peuvent-ils jouer un rôle plus d'utilité sociale, comme l'ARA vient de le faire dans la...
Alors l'ARA, c'est l'Association Régionale des Radios Associatives, qui est la fédération régionale qui nous regroupe. Il y en a deux en Occitanie, c'est l'une des deux.
Tout à fait.
Et donc, si, oui, je reprends la punchline, là, parce qu'effectivement, c'est une idée qu'a soulevée Sarah Rousseau, qui aurait pu être présente avec nous aujourd'hui, mais qui n'est pas, mais qui nous laisse une très belle idée. Les entreprises privées ont leurs médias, c'est Bolloré. C'est coloré, hein, on va le dire. Le monde de l'ESS a ses médias, c'est les radios associatives, mais aussi les médias associatifs et coopératifs qui existent. Hein, on en connaît quelques-uns. On citait la Gazette, Jean-Louis.
La Gazette, oui, tout à fait. Pour la Gazette, le sujet qui est posé, ce n'est pas les seuls. C'est la question de l'indépendance, de l'autonomie, de la capacité à avoir une ligne éditoriale qui est tenue. Et c'est vrai que la question d'utilité sociale, hein, qui est évoquée dans les sociétés coopératives d'intérêt collectif, c'est un sujet fondamental, hein, puisque c'est inscrit dans la loi.
Alors, peut-être en dire un mot, parce que les SIC, bon, vous le disiez, ça va 25 ans maintenant à peu près.
C'est ça.
Je crois que c'est 2001, Guy Ascouette, hein, si on refait un peu d'histoire. Mais c'est un modèle qui est quand même encore relativement peu connu et qui est un peu complexe à mettre en œuvre, parce qu'il prévoit... un tour de table qui peut comprendre des collectivités, entre autres, c'est là où c'est assez innovant, mais aussi des habitants, des salariés, voilà.
Tout à fait, mais la complexité, elle est une nature essentielle de notre humanité, en fait. Nous sommes forcément dans un monde complexe. Et donc la SIC est la représentation même de la complexité, c'est-à-dire le fait de prendre en compte les différents points de vue. Et par cette nature, le mouvement coopératif depuis longtemps porte que l'utilité sociale ne réside pas simplement dans la nature de l'activité que nous réalisons, mais dans la manière aussi dont nous avons de réaliser cette activité.
La gouvernance
est essentielle. Et la question de prendre en compte les différents points de vue du producteur salarié aux bénéficiaires, en passant par les parties prenantes annexes, connexes, que sont les collectivités parfois, ou d'autres acteurs territoriaux, est essentielle. Et la SIC en soi traduit ça, et moi dans une logique, si ça a été construit en 2001, 100 ans après la loi associative, c'est pas rien non plus, c'est pas un message anodin, c'est que ça s'inscrit aussi bien sûr dans le champ des entreprises privées, hein, les sociétés commerciales coopératives que nous sommes sont des entreprises privées, mais la question c'est à quoi sert la création de richesse, à quoi ça sert, et donc la question c'est l'impact aussi territorial, comment on génère l'impact territorial et pour les gens qui en sont, et donc c'est un élément essentiel, et la question des médias, hein, aujourd'hui on le voit bien, est un élément essentiel, on ne peut pas laisser ça, l'appropriation unique par les biais capitalistiques classiques, c'est-à-dire celui qui a le plus d'argent qui décidera le plus et point, il faut à un moment donné une réappropriation sociale, et la question des outils coopératifs, hein, la réappropriation par les salariés de leur entreprise, on a connu et on sait tout l'effort qu'a été par exemple le cas de Duralex il y a à peu près un an.
Entreprise emblématique.
Ce sont des exemples comme la Gazette qui aujourd'hui pose des questions en matière justement d'autonomie, d'indépendance et donc cette volonté, hein, d'intégrer plus fortement les lecteurs, les partenaires, entreprises locales, etc. Ce sont ces sujets-là en fait qui sont posés aujourd'hui.
Mais c'est des sujets qui sont peu spectaculaires parce que ça demande beaucoup de temps pour organiser tout ça. On voit bien le passage d'une... monter une SIC, c'est un chantier qui dure en général des années parce qu'il faut trouver les bons équilibres entre les uns et les autres.
Oui, alors, à juste titre, je pense qu'on sort de la société du spectacle parce qu'on n'en est pas là et ce n'est pas notre terrain. C'est peut-être pour ça aussi que pour l'économie sociale et solidaire, c'est des fois plus dur alors de se rendre visible, lisible, etc. Mais parce qu'en fait, on n'est pas dans la simplicité, mais parce que la simplicité en soi, elle est où? Elle existe où? Dans peu d'endroits.
Dans le discours politique.
Voilà, peut-être parfois, mais donc nous, on est forcément dans des questions, mais la complexité n'est pas quelque chose qui est compliqué. C'est juste que c'est prendre en compte effectivement la place des uns et des autres. Et dans le champ coopératif, on est des entreprises qui créent de la richesse, qui produisent, qui existent. Malheureusement, comme le mouvement associatif, nous aussi, on vit une année compliquée. Hein, et les entreprises en général, hein, on voit une croissance, hein, des liquidations cette année. Donc on essaie d'être là, on soutient nos coopératives, mais ce n'est pas simple. On sent que c'est une dimension alors, qui n'est pas pour le coup là, liée à des subventions publiques, mais liée aussi à la situation du marché, à la tension, hein, qui fait que la visibilité est moins forte et donc certains secteurs de la formation ou des jeunes entreprises de fait ont du mal à s'ancrer dans leur activité et malheureusement n'arrivent pas à passer ce fameux cap un peu des trois premières années ou des cinq premières années. Dans les SCOP ou les SIC, on voit un taux de pérennité qui est près de 80% à 5 ans. Et c'est pas pour rien, c'est parce que avant tout, ce qu'on cherche à faire, c'est que ce qui est produit serve l'objet social, permettre une amélioration aussi des conditions de travail des gens qui y sont, et donc ce partage de la richesse. Donc on pose des jalons en fait essentiels, mais depuis finalement 150 ans, voire bien avant, hein, le monde mutualiste, associatif ou coopérative, sur les questions de partage du pouvoir, de partage de la richesse et finalement d'impact territorial, qui sont des éléments essentiels. Et on reste dans cette dimension, moi j'ai envie de le dire, mais d'espérance. C'est-à-dire que l'économie sociale et solidaire, on la réduit souvent à une économie de la réparation. Pour moi, c'est une économie de l'espérance, j'ai envie de dire de la simplicité de ce que devrait être l'économie. C'est-à-dire l'économie devrait être au service de l'intérêt des gens.
Il nous reste quelques minutes. Il y a des échéances devant nous. C'est-à-dire que, bon, là, dans les semaines qui viennent, il y a le projet de loi de finances. Donc, ça dira un certain nombre de choses de la manière dont l'économie en général, l'économie autour de l'ESS en particulier, va être considérée. Ensuite, il y a les municipales. Est-ce que là, il y a nécessité, intérêt à interpeller l'ensemble des candidats qui vont se présenter pour le renouvellement de ces listes ? François Dibault.
Ah, oui, là, moi, je vous ai présenté le pacte territorial pour la vie associative. Là, on est vraiment dans l'idée. Je vais rebondir un peu sur ce que Jean vient de dire. Ce qui a hérité, ce que nous avons hérité depuis 1901 et qui est collectif à l'ESS, me semble-t-il, c'est l'idée de la propriété commune, de la propriété d'usage, de la propriété collective, du partage du capital social. Et effectivement, il n'y a que à l'échelle du territoire de vie où c'est réaliste de l'imaginer, de l'envisager. Et donc la SIC est un bon exemple puisqu'elle permet effectivement à une collectivité d'abonder le capital, de participer, de mettre en haut de bilan un certain nombre de choses qui en fait ne sont pas forcément de l'argent sonnant et trébuchant, mais qui participent à la gouvernance concertée. Et ça me paraît être au niveau des territoires que c'est jouable et pas dans l'absolu comme un modèle qu'on devrait reproduire, mais bien qui permet effectivement aux collectivités d'être sensibilisées, mobilisées et participer à une gouvernance partagée dans ce type de fonctionnement.
Bravo, bonne réponse. J'attendais une réponse genre on va faire quelque chose, on va les interpeller. Mais bon, on aura sans doute l'occasion d'y revenir. C'est dans 3 mois les élections municipales et donc d'ici là, on verra qui se présente et puis on verra ce que le mouvement associatif, le mouvement coopératif et le mouvement mutualiste attendent un peu des collectivités locales. On a entendu avec la parole de Caroline Dufoy que les élus étaient très attentifs à tout ça. On termine cette série d'émissions du mois de l'économie sociale et solidaire. Je remercie aujourd'hui Caroline Dufoy d'avoir été avec nous, Jean Huette et François Dibault. Et puis, on remercie tous ceux qui, dans les 13 émissions, seront venus parler. Il y a beaucoup de monde. On a abordé vraiment beaucoup de sujets très divers. Ça va des comités de quartier aux ressourceries, aux médico-sociales, à la cagette et j'en oublie beaucoup. Ce sont nos invités habituels et permanents. On a peut-être fait un peu le focus, mais je rappelle que Radio FM+, c'est aussi une radio qui est toujours ouverte à l'éducation populaire, au mouvement associatif, aux associations et à l'économie sociale et solidaire en général. C'est la fin de cette émission. C'était Olivier qui était à la technique aujourd'hui. Ce 10-10 se referme. Rendez-vous demain.